Écoutons maintenant la lecture de quelques passages de nos livres saints. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, ou dans le Premier Testament, nous lirons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, quelques versets. « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et au verset 10, « C'est vous qui êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez, et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. » Et nous lirons maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, quelques versets à partir du verset 15. « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et nous terminerons nos lectures en prenant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, quelques versets à partir du verset 28 qui serviront de thème à notre méditation ce matin. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet, si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Ô Dieu, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 224, les strophes 1, 2 et 3. Ô Éternel, nous voudrions tout d'abord te dire merci. Merci de nous permettre de nous réunir dans ce temple qui nous rappelle bien des souvenirs, en ce dimanche, en ce jour qui t'est particulièrement consacré. Et dans cet instant, nous voudrions faire toutes les voix qui sont étrangères, afin d'écouter la grande parole du Christ, nous redire des choses décisives et salutaires pour chacune de nos vies. Au moment où, comme chaque dimanche, nous allons ouvrir le Saint-Livre, donne-nous la sérénité qui nous permettra d'accepter ce qui ne peut pas être changé en nous et autour de nous. Accorde-nous également aussi le courage et la force de changer tout ce qui peut et doit être changé. Et enfin, accorde-nous, ô notre Père, la sagesse de savoir distinguer l'un de l'autre. Et veille faire en sorte que nous ne quittions pas cette maison de prière avec des impressions qui soient fugitives, frivoles ou passagères, mais avec le désir intime et profond d'être là où tu nous as placés, des serviteurs et des servantes, inutiles sans doute, mais fidèles. Chers frères et sœurs, le texte sur lequel nous allons réfléchir pendant quelques minutes, si vous voulez bien maintenant, se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et au verset 30, en ces termes. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifié. » Lorsque j'avais pris mes fonctions à l'oratoire du Louvre, il y a quelques années maintenant, mon collègue et ami, le pasteur Fett, m'avait demandé de le remplacer comme aumônier à l'Hôtel Dieu de Paris pendant son mois de vacances. Et j'étais allé visiter une première personne qui était sur un lit de souffrance et qui m'avait dit « Moi, vous savez, monsieur le pasteur, le grand réconfort que j'ai, c'est de savoir que si tout cela m'arrive, c'est pour mon bien et cette maladie que j'ai, c'est Dieu qui me l'envoie. » Moi, j'étais convaincu du contraire. Mais en présence de quelqu'un qui est malade et qu'on est bien portant, on ne va pas aller le contredire. Alors, ma foi, j'ai rien dit du tout, je l'ai écouté. Et puis là-dessus, quelques jours après, je suis appelé auprès d'un autre malade qui me dit exactement le contraire. Et qui me dit, « Oh, moi, vous savez, je souffre beaucoup, mais j'ai quand même une grande consolation en pensant que c'est pas Dieu qui m'a envoyé tout ça et que Dieu n'y était pour rien. » Alors là, j'ai acquiescé, je dois dire, beaucoup plus facilement, il est vrai. Alors derrière cette question-là, il y a la question de la prédestination et la question de l'élection. Les deux questions sont très liées. Et comme vous savez que l'an prochain, on va commémorer, on commémore beaucoup dans le protestantisme, vous savez, le 5e centenaire de la naissance de Calvin à Noyon. Actuellement, beaucoup se penchent sur ce problème de la prédestination, qu'on hésite un petit peu parfois à traiter, parce qu'on ne sait pas très bien comment les uns et les autres vont réagir. Parce que si actuellement je faisais un sondage en demandant parmi vous quels sont ceux qui tiennent ferme à la prédestination, il n'y en aurait peut-être pas beaucoup, mais il y aurait quelques-uns qui se lèveraient. Et puis il y en a aussi d'autres qui diraient « Oh ben non, moi personnellement, surtout la double prédestination, bon, ça alors pas du tout. Ça, je n'y crois pas du tout. » Alors, il est certain que sur ce point, beaucoup de protestants aujourd'hui réformés n'ont pas suivi Jean Calvin dans ce domaine-là. Et il faut d'ailleurs aussi se souvenir que Calvin lui-même n'avait pas hésité à dire que c'était peut-être pas le point essentiel de cette doctrine. Et il a également aussi ajouté une chose qu'il est nécessaire de préciser. Il a dit oui, que tant qu'un homme, un être humain, avait un souffle de vie, il ne savait pas à quoi il était prédestiné. Il a donc laissé une fenêtre largement ouverte. Et par conséquent, c'est ce qui explique que finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les calvinistes, et à leur suite les puritains, le puritanisme étant parfois un peu une déviation d'ailleurs par rapport au calvinisme, mais, eh bien les calvinistes ont montré au contraire un grand esprit d'initiative. Ils se sont en aucune façon montrés marqués par un destin qui serait inexorable et ont au contraire eu vraiment le sens de l'organisation, ce qui explique que dans bien des pays protestants, la situation est assez florissante, comme l'a remarqué Max Weber. Mais également aussi, c'est ce qui explique parfois que la doctrine de la prédestination a conduit à des déviations un petit peu aberrantes, notamment avec l'apartheid. Mais là, l'apartheid n'est pas à mettre sur le compte du calvinisme, mais d'une certaine forme de déviation du calvinisme qu'on pourrait peut-être qualifier de puritanisme en Afrique du Sud, par exemple, où fort heureusement les choses aujourd'hui changent. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a tout de même ce texte de l'Épître aux Romains où le mot prédestination revient, puis revient à plusieurs reprises. Et je pense qu'il est bon sans doute de temps en temps de se pencher sur ce texte pour voir quelle est sa signification exacte d'une façon précise, sans faire pour autant une étude biblique, parce qu'un sermon doit être une conversation. C'est le sens étymologique du mot sermon. Ce que je voudrais avoir avec vous, c'est une conversation. Ah, vous allez me dire, oui, mais vous êtes le seul à parler. Alors, c'est une conversation un peu particulière, parce que, si vous voulez, en effet, moi, je parle, puis vous, ben, pour l'instant, vous ne pouvez pas répondre. Bon, ah, vous pouvez le faire à la sortie, vous allez me dire, oui, mais il faut attendre la sortie pour pouvoir dire au pasteur ce qu'on pense de ce qu'il a dit. Bon. Et de la façon dont on comprend le texte qu'il a cherché à commenter. Alors, là, ce qu'il nous a dit est tout à fait étonnant, parce que, voyez-vous, il nous a dit... Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors tout d'abord, nous apprenons une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés. Tous les êtres humains sont appelés. Et à chaque fois que nous entendons l'annonce de l'Évangile, lorsque l'Évangile est prêché, eh bien, à ce moment-là, derrière cette annonce de l'Évangile, il y a un appel. Et cet appel s'adresse à nous non seulement sur le plan de notre communauté, sur le plan de la vie collective, mais cet appel s'adresse à chacun d'entre nous en particulier, parce que chacun d'entre nous est invité à se prononcer, par conséquent à prendre une décision. C'est cela, la décision de la foi, et Bultmann, à juste titre, je crois, a beaucoup insisté là-dessus. La nécessité de savoir nous décider. Cela n'entraîne évidemment pour nous, si vous voulez, aucune œuvre, aucun mérite, bien sûr. Parce que voyez-vous, si on vous offre le cadeau le plus merveilleux qu'il soit possible d'imaginer au monde, eh bien, encore faut-il que vous l'acceptiez et que vous puissiez le recevoir. Eh bien, la grâce de Dieu se présente à nous comme un cadeau totalement immérité, mais il y a un moment où il nous faut répondre à l'amour de Dieu, qui est un amour prévenant, l'amour de Dieu qui est premier. C'est pourquoi il y a une chose que j'aime bien. Lorsqu'il y a un baptême, et ici il y a eu tellement de baptêmes, lorsque je vois ce baptistère, il n'y en a pas toujours des baptistères dans les temples protestants, eh bien, ça me rappelle des quantités de souvenirs qui sont tout à fait émouvants. Et dans notre liturgie, il y a quelque chose qui peut se discuter peut-être, me direz-vous. C'est qu'on dit, en parlant du petit enfant, et si jamais il venait à s'en séparer, vous allez me dire, quelle idée de prévoir qu'il va s'en aller alors qu'il est à peine arrivé. Bon, ça c'est vrai, c'est entendu. Bon. Maintenant, ceci dit, la suite est quand même très intéressante. Sa place y restera toujours marquée, c'est-à-dire il pourra toujours revenir. Mais ça c'est très important, parce que vous savez que beaucoup de nos corligionnaires aujourd'hui, qui parfois ont un petit peu quitté la paroisse qui était la leur, hésitent à revenir parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être accueillis. Alors vous savez qu'un jour, je me souviens, rassurez-vous, ce n'était pas à l'oratoire, et je ne vous dirai pas où c'était, mais une personne, en plus membre du conseil presbytéral, voit arriver quelqu'un qu'on avait pourvu depuis très longtemps, on dit, tiens, voilà un revenant. Alors si vous voulez, comme accueil fraternel, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut, oui. Alors évidemment, nous sommes donc tous appelés, si vous voulez, les uns et les autres, à manifester une certaine solidarité, et nous savons d'abord que nous sommes tous appelés. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Par-delà toutes les distinctions et toutes les barrières qu'on peut mettre entre nous, sur le plan social, économique, culturel et autres, nous savons une chose sûre et certaine, c'est que nous sommes tous appelés. Et alors, il y a une seconde chose qui est extrêmement importante, deuxième bonne nouvelle, nous sommes justifiés. Tous ceux qui sont appelés, et puis qui répondent à cet appel, sont justifiés. Alors là, vous allez me dire, là, ça devient plus problématique. Parce que, est-ce qu'on peut se considérer comme étant des justes ? Et quel est celui qui peut dire, si on, maintenant je faisais un nouveau un sondage, quels sont ceux qui sont des justes ? Il y en a peut-être qui hésiteraient à lever la main. Ben écoutez, ça dépend de ce qu'on entend par juste. Parce que le mot juste, dans le fond, dans la Bible, signifie le croyant. Alors si je vous demande qu'est-ce qui est croyant ici, ben, la plupart d'entre nous peuvent sans doute lever la main et dire ben, « Oui, moi je fais partie en effet des croyants. Je crois d'une façon maladroite, d'une façon qui est parfois incertaine. Il n'y a pas de foi non plus sans doute, bien sûr, c'est certain. Mais ceci dit, en effet, à ce moment-là, on peut dire « Je suis justifié ». Nous sommes donc justifiés, c'est-à-dire nous, Dieu nous considère comme justes alors que de fait, nous ne le sommes pas. C'est ça, dans le fond, la condition du chrétien, qui était d'ailleurs remarquablement présentée par le théologien américain d'origine allemande, Paul Tillich, qui a dit que le chrétien, c'est celui qui accepte d'être accepté, bien qu'il soit inacceptable. Ah, vous allez me dire, il faut être théologien hein, pour formuler des phrases de cette façon aussi dense. Mais oui, c'est certain. Mais en même temps, voyez-vous, dans cette phrase, ben, toute la condition chrétienne est résumée. Dans le fond, nous ne sommes pas acceptables. Quel est celui qui, d'entre nous qui pourrait venir dire devant Dieu ben, « Moi, je suis acceptable entre tous, entre toutes. Bon, » Personne, bien sûr. Bon. Mais Dieu nous accepte quand même, bien que nous soyons acceptables. Mais encore faut-il que nous nous acceptions d'être acceptés. Parce qu'il y a un moment donné où il y a une réponse. Vous savez, il n'y a pas d'amour sans réciprocité. Voilà quelle est la question. Voilà quel est le fond de la question. Alors, le juste, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Ce n'est pas quelqu'un, si j'ose m'exprimer ainsi, qui est un petit saint. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui est irréprochable. C'est quelqu'un qui n'est pas coupé de Dieu. Il n'y a pas de fossé entre lui et Dieu. De même qu'il sait qu'il y a un fossé en lui-même qui va se dispisser, qu'il y a parfois un fossé qui l'éloigne de son prochain aussi, et que tout ça peut-être va être remis en cause, et que finalement, celui qui est juste, le croyant, il sait qu'il est admis en la sainte présence de Dieu. peut-être pour se faire admonester, peut-être pour être complètement désapprouvé. Mais par conséquent, c'est cela, le juste. C'est ce qui fait, voyez-vous, qu'à un moment donné, vous savez, on a distribué à tous ceux qui, pendant la guerre, ont manifesté beaucoup de courage en sauvant des amis israélites. Et ici, comment ne pas passer à l'un des anciens pasteurs de l'oratoire qui a eu la médaille des justes. Et il est certain qu'au moment où on a voulu décerner la médaille des justes, certains ont dit ben, « est-ce que je peux accepter ça ? Est-ce que j'ai le droit d'être considéré comme un juste ?» Ben, être considéré comme un croyant, ben oui, ça, on a le droit. Ça, en effet, on peut le faire. Parce que c'est au nom de leur foi que certains ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait n'entraînait pour eux, de leur propre point de vue, aucun mérite. Bien sûr, on voit des gens qui sont méritants. Quand on voit des jeunes qui travaillent beaucoup, qu'est-ce qu'on va dire ? Cette jeune fille, ce jeune homme, est quelqu'un de très méritant. Mais attention, il faut distinguer être méritant les uns par rapport aux autres et une œuvre méritoire. Parce que devant Dieu, personne n'est méritant. Personne ne peut venir faire preuve de ses mérites, la preuve de ses mérites devant Dieu. Alors nous sommes, oui, des justes, sans doute, des saints, certainement pas, bien sûr, des croyants, ben c'est ce qu'il faut nous souhaiter à tous, c'est d'être des croyants. Et puis si parmi nous, quelques-uns ne sont pas des croyants, hein, je me souviens de ce que disait le pasteur Marshall en parlant de quelqu'un qui lui avait dit « Je ne crois en rien, mais j'espère tout. » Eh bien, je crois que c'est dans le fond. Il vaut mieux encore ne croire en rien, espérer tout, que croire tout et n'importe quoi, et ne rien espérer. Oui. Par conséquent, voyez-vous, lorsqu'il disait toujours, oui, oui, il y a de vénérables douteurs, eh bien oui, c'est vrai, oui. Et il n'y a pas de doute sans foi. Et il est vrai qu'à certains moments, eh bien, nous sommes les uns et les autres pris par le doute, oui. Et c'est un signe, sans doute, peut-être aussi, de réflexion. Mais évidemment, le doute ne doit pas être systématique, à part s'il est scientifique, si vous voulez. Mais ensuite, sur le plan spirituel, sur le plan de la vie religieuse, c'est une étape transitoire que nous espérons pouvoir franchir. Et il y a une autre étape. L'apôtre Paul n'hésite pas à dire, non seulement vous avez été appelé, première bonne nouvelle, deuxième bonne nouvelle, vous êtes justifié, mais alors la troisième bonne nouvelle, on hésite à l'accepter parce qu'on se demande si c'est possible. Et ensuite, vous êtes glorifié. Glorifié. Ah, il est vrai que quand on pense à la gloire, si vous voulez, on pense parfois à la gloire humaine. Il y a un très beau tableau que j'aime bien, qui représente Napoléon au retour de la campagne de Russie, après la Bérésinée, qui traverse des paysages enneigés de l'Europe centrale, de la Pologne probablement. Il est sur son célèbre cheval, avec son célèbre chapeau, et puis la main qui est là, dans le gilet, vous savez. Et on voit en bas, ainsi passe la gloire du monde. Là, il s'agit de la gloire humaine. Alors, la gloire dans la Bible, c'est tout à fait autre chose. Le pasteur Maurice Carrez, que certains d'entre nous ont connu, qui était pasteur à Pantemont à la Maison Fraternelle et professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie de Paris, oui, a fait sa thèse de doctorat en théologie sur la gloire de l'Éternel. Et la conclusion de sa thèse est tout à fait intéressante, puisqu'il dit « La gloire de l'Éternel se confond de fait avec son amour. » La gloire de l'Éternel, c'est son amour. Alors, lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous sommes glorifiés, cela veut dire que nous sommes environnés par l'amour rayonnant de Dieu et que nous sommes mis au bénéfice de cet amour. Alors voilà donc la troisième bonne nouvelle qui fait que, quelles que soient les vicissitudes du moment présent, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les mauvaises nouvelles que la télévision et les journaux, notre quotidien, nous apportent chaque jour, eh bien, malgré cela, nous savons que nous pouvons continuer notre chemin dans la paix, Pas toujours peut-être, mais dans la lumière, assurément. Et alors à ce moment-là, me direz-vous, mais qu'est-ce qui nous permet de penser tout cela ? Ce qui nous permet de penser tout cela, c'est tout simplement le fait que nous, chrétiens, nous croyons, nous pensons que Dieu a un plan pour notre monde. Il a un projet. Il a un dessein. Le mot, d'ailleurs, dessein, dans le grec du Nouveau Testament, c'est le mot qui a donné le mot prothèse en français. Alors, voyez-vous, il y a donc un plan sur notre monde. Les choses ne viennent pas au hasard. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie, le hasard ? Pas grand-chose. C'est un mot arabe, intéressant d'ailleurs, qui signifie partie de dé. Alors, il y en a qui pensent que tout vient comme ça, au hasard. Et même, vous savez, Monod, dans son fameux livre « Le hasard et les nécessités », finalement, il avait dit qu'il y avait 20 éléments de la particule moléculaire. Sur les 20 éléments, il y en avait 19 qu'on connaissait, puis le 20e venait dit au hasard. Bon. Ce qui est d'ailleurs pas très scientifique ni philosophique de s'exprimer de cette façon, parce qu'il oubliait de dire, mais oui, mais c'est peut-être possible que le 20e élément de la particule moléculaire, on ne sait pas ce qui va en advenir, on ne le sait pas maintenant, mais est-ce qu'on le saura demain ? Ça, c'est une question qu'il ne pose pas. Hein ? Et puis, en plus, est-ce vraiment certain ? Alors, voyez-vous, finalement, le hasard n'a pas grande signification, et nous, chrétiens, nous préférons croire à la providence, à la bienveillance de Dieu. Alors vous allez me dire, mais alors la prédestination, pourtant, écoutez, elle est bien affirmée dans ce texte. Il y a bien le mot prédestination. Ben non, il n'y a pas le mot prédestination. Alors là, il y a un problème qui est quasiment très difficile. Vous savez, les Italiens disent que tous les traducteurs sont des traîtres. Je crois que c'est faux, parce qu'il y a fort heureusement d'excellents traducteurs. Mais c'est très difficile de traduire le Nouveau Testament du grec dans toutes les langues qui sont les nôtres, notamment la langue française. Alors là, excusez-moi, parce que je vais vous dire le mot en grec. Le mot en grec, parce que vous allez comprendre tout de suite, il n'y a pas besoin de faire de grec, c'est pro-horizein. Pro-horizein. Alors vous avez pro, qui signifie pour ou en faveur de, ce qui est vrai aussi en latin, par conséquent, mais également aussi en français. Par conséquent, Dieu place quelque chose qui va être en notre faveur, qui va être pour nous. Bon. Et qu'est-ce que c'est qu'il va mettre devant nous ? Ben, ce n'est pas le destin. Par conséquent, dans le mot, il n'est pas question de destin. Parce que le destin, c'est un mot qui n'est pas chrétien. Et vous ne trouverez pas le mot « destin » dans le Nouveau Testament. Si vous trouvez quelque part le mot « destin » dans le Nouveau Testament, et que vous en êtes sûr, venez me présenter le passage à la sortie et je vous offre l'apéritif. Je ne crains pas grand-chose. Hein. Et non seulement à vous, mais à toute votre famille, même si vous voulez. Hein. J'irai presque dire à toute la paroisse, mais enfin, je vais peut-être quand même pas aller jusque-là, parce qu'il y a parfois des gens qui sont peut-être bien meilleurs que moi, on exagère, ça va parmi vous. Alors, mais en tout cas, écoutez, le mot « destin » en tout cas ne se trouve pas dans ce mot-là, qui est utilisé par l'apôtre Paul. Or, le destin est toujours présenté comme quelque chose d'aveugle. Et vous savez que le destin dans l'Antiquité, on le représentait sous la forme d'une femme, les yeux bandés. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi une femme, parce qu'on pourrait aussi bien mettre un homme. Hein. Ça, je tiens à rassurer tous les partisans de la théologie féministe, que là, dans ce domaine-là, c'est en effet pas très juste du tout. Alors, en effet, il y a cette idée que le destin est aveugle, qu'il est inexorable, et qu'on peut donc rien faire contre le destin. Eh bien, il n'y a pas le mot « destin ». Alors, certains vont dire, oui, mais alors, il y a peut-être le mot. Alors, on ne va pas dire « prédestination », on pourrait peut-être dire « prédétermination », et on va faire appel au déterminisme. Eh bien, il n'y a pas non plus le mot de terme. Il n'y a pas l'idée de frontière. D'ailleurs, si vous voulez, justement, tout le message du Nouveau Testament, c'est la disparition des frontières. Disparition de tout ce qui nous sépare, de tout ce qui nous divise à l'intérieur de nous-mêmes, de ce qui nous divise par rapport à notre prochain, tout ce qui nous divise par rapport à Dieu. Par conséquent, c'est au contraire l'abolition des frontières et des limites. Mais alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il y a donc s'il n'y a pas cette idée de frontières, de termes ? Eh bien, le mot, c'est le mot « horizein », et là tout de suite, ça va vous faire penser à un mot français, c'est le mot « horizon ». car le mot horizon vient de là. Alors par conséquent, ce que Dieu nous propose, ce que Dieu place en notre faveur, c'est un horizon nouveau. Alors nous avons besoin de temps en temps de voir des horizons nouveaux. C'est pourquoi on part en vacances. C'est pourquoi beaucoup de nos amis actuellement sont en vacances. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi, parce que de temps en temps, on a besoin de changer d'horizon. On a besoin qu'une fenêtre s'ouvre sur une autre réalité que celle que nous connaissons tous les jours, que nous voyons tous les jours. Alors, par conséquent, si vous voulez, ce qui est très important, c'est cela. C'est que nous avons donc un horizon qui nous est proposé. Mais dites-vous d'abord, qu'est-ce que c'est que l'horizon ? Ah, dans tous les dictionnaires, on vous dira que c'est une ligne imaginaire, d'abord, qui se déplace en fonction de l'observateur. Votre horizon va changer en fonction de chacun d'entre nous, au fur et à mesure que nous déplaçons, nous changeons d'horizon. Par conséquent, à ce moment-là, le mot « horizon » qui est utilisé là montre l'extrême souplesse du plan de Dieu, du projet de Dieu, du dessein de Dieu à l'égard de notre humanité. Et par conséquent, cela indique également aussi qu'il y a une plage de liberté qui nous est proposée. Alors par conséquent, l'idée de prédestination, surtout cette idée absolument épouvantable de double prédestination, vous savez, où Dieu, à la suite d'un décret incompréhensible, dit Calvin, on comprend d'ailleurs tout à fait qu'il est incompréhensible, jusque-là on peut le suivre, aurait prédestiné les uns, avant même la création du monde, au salut éternel, et les autres à la damnation éternelle. Ce qui met en jeu à la fois sa bonté et sa toute puissance. Par conséquent, la prédestination, on comprend très bien que même les disciples les plus stricts de Calvin l'ont généralement abandonné. Il y en a encore quelques-uns qui la conservent dans un sens très strict, bien entendu. Et puis il y a des personnes qui pensent qu'il y a des choses qui nous échappent et qu'on ne peut pas toujours comprendre le dessein de Dieu. Et l'autre jour, un ami qui est ancien préfet me dit « Moi, je crois à la prédestination ». Puis finalement, en discutant avec lui, je me suis aperçu que ceux qui croyaient, non, c'était pas du tout à la prédestination. C'était le fait qu'il pensait que Dieu avait un plan pour le monde, pour notre monde. Alors ça, je suis bien d'accord avec lui. Et je pense qu'en effet, les choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que, par conséquent, si vous voulez, il faut voir toutes les choses sous cet angle-là. Alors cette idée, si vous voulez, que certains, eh bien, seraient les victimes, j'allais dire, d'une réprobation éternelle, c'est quelque chose qui est quand même impensable. Parce que ça va tout à fait à l'encontre de tout ce que les textes bibliques nous disent à propos de la miséricorde de Dieu. Ah, vous connaissez sans doute l'histoire qu'on raconte dans les milieux catholiques et aussi dans les milieux protestants, à propos de quelqu'un qui visite le paradis, et puis il demande, il y a des catholiques ici, on dit oui, il y en a, oui, il y a des protestants, oui, il y a des orthodoxes, oui, il y a des néo-provenceurs, oui. Il dit, oui, attention maintenant, il faut faire silence parce qu'on arrive, là, il voit une grande muraille. On dit, là, ici, il faut se taire. Là, il ne faut plus rien dire. Alors, il dit, mais alors, pourquoi il faut se taire? Parce que de l'autre côté, c'est l'autre partie du paradis, mais ceux qui sont de l'autre côté, ils s'imaginent qu'ils sont tout seuls. Alors, s'ils savaient qu'il y en avait d'autres de l'autre côté, ça leur gâcherait leur joie. Alors, comme on ne veut pas leur gâcher leur joie, alors on a mis ce mur pour le séparer. Alors il ne faut pas faire de bruit parce qu'il ne faut pas qu'ils sachent que de l'autre côté, il y en a d'autres aussi. Alors vous savez que dans certaines églises, dans certaines petites églises et surtout dans certaines sectes, on insiste beaucoup sur les peines de l'enfer. C'est ça. Et je crois que quelqu'un comme Sébastien Castellion a bien eu raison de s'opposer à Calvin sur ce plan-là aussi et de dire que finalement, si le Christ, comme il le disait dans le symbole des apôtres, était descendu aux enfers, c'était pour en faire sortir tout ce qu'ils y trouvaient. Bon. Par conséquent, pour enfermer les portes. Bon. Alors, je préfère cette explication-là qu'une autre. Même si, vous voulez, elle n'est pas nécessairement totalement, complètement convaincante, peu importe. Mais, voyez-vous, finalement, ce qui compte, c'est qu'en effet, de se souvenir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'il y a toujours encore une chance pour ceux, peut-être, qui l'ont oublié, parce que notre place, comme nous le disons dans notre liturgie, reste toujours marquée, et il y a toujours pour nous une seconde chance. Amen.